franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par l'interview de François Hollande accordée à l'Express et le parallèle fait entre l'actualité du moment, le terrorisme et le dérèglement climatique à quelques jours de l'ouverture de la COP21 à Paris.
C'est le même combat, affirme le chef de l'État, celui qui consiste d'une part à protéger l'humanité des actions de mort que porte l'État islamique, d'autre part à préserver la planète de nos propres inconséquences qui peuvent demain être des sources de conflits et de guerres. Le fanatisme qui tue aujourd'hui, l'indifférence qui consume notre planète, la France veut être à la tête de la plus large coalition pour la vie, affirme donc François Hollande. François Hollande qui prend la peine de rappeler qu'il existe dans le domaine de l'environnement une tradition française, de Giscard à Chirac en passant par Mitterrand, et il cite même Nicolas Sarkozy et son Grenelle de l'environnement, une citation suffisamment rare pour être relevée. Mais pour parler au nom de la France, dit-il, il faut parler au nom de son histoire. Un président qui se veut optimiste à quelques jours de l'ouverture de la COP21, même si on est encore loin du compte des engagements de chaque pays pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais s'il y a une cause qui réclame du dévouement et du dépassement personnel, professe le président à l'intention de tous les dirigeants du monde, eh bien, c'est bien celle du climat.
Coalition pour la vie défend donc François Hollande en attendant celle qu'il essaie de mettre sur pied pour lutter contre le groupe État islamique et qui rencontre bien des difficultés.
Oui, après l'épisode d'hier du bombardier russe abattu par la Turquie, Bernard Guetta l'a évoqué il y a quelques instants et puis vous en parliez avec votre invité, toute la presse s'inquiète ce matin, comme les Échos par exemple, de ce grave revers pour la coalition avant même qu'elle ait vraiment vu le jour. Jean Levallois dans la presse de la Manche regrette une coalition tour de Babel. Philippe Gély dans le Figaro souligne qu'avec de tels alliés, la France n'est pas au bout de ses peines. Turquie et Russie sont indispensables, mais on ne fait pas pire ennemi, explique-t-il. Irréconciliable sur le sort de Bachar el-Assad et ambigu sur leur détermination à lutter contre l'État islamique. Pascal Coqui, dans les dernières nouvelles d'Alsace, estime lui qu'avec des adversaires de cette trempe-là, l'organisation de l'État islamique a décidément encore de beaux jours devant elle. Bref, chacun appuyant les efforts de François Hollande, le John Wayne des Champs-Élysées, comme le surnommait le Guardian ce week-end, mais très largement sceptique sur ses chances de réussite ce matin.
Dans la presse également ce matin, Hélène, les premiers éléments concrets sur les futurs centres de déradicalisation qui vont ouvrir en France dès 2016.
Faux quotidien d'abord reste abasourdi par les dernières révélations sur l'attitude d'Abdelhamid Abaoud, revenu le soir même des attentats sur les lieux, notamment, vous l'avez dit, aux abords du Bataclan. Pourquoi, s'interroge le Parisien, voulait-il se repaître du spectacle de ses crimes? Portait-il une ceinture d'explosifs pour viser la foule? Mystère, mais signe en tout cas de son incroyable cynisme, de cet instinct de mort incompréhensible pour nous. Alors pour éviter d'autres Abaoud, le gouvernement avait promis en janvier dernier l'ouverture d'un centre de déradicalisation. La Croix a pu en consulter le programme. Le lieu reste à définir, mais le centre doit ouvrir fin mars. Centre fait destiné à des jeunes de retour de Syrie ou d'Irak, ou à ceux qui ne sont pas encore partis, mais qui sont déjà endoctrinés. Tous devront être volontaires pour suivre un programme pédagogique de 10 mois, avec plusieurs phases, centrées autour de modules de citoyenneté, d'insertion sociale, mais aussi et surtout, prise en charge psychologique et individuelle. Notre cerveau n'est pas une machine qu'on peut déprogrammer, explique le psychanalyste Fethi Benslama. Mais il faut accompagner chaque jeune qu'il souhaite pour qu'il se reconstruise et trouve sa place dans la société. Pas de religion, programme inutile d'entrer avec eux dans une confrontation religieuse. Et puis depuis les attentats du 13 novembre, un autre type de structure est annoncé. Elle serait destinée cette fois à accueillir des jeunes sous contrôle judiciaire et fonctionnerait sur injonction des magistrats. François Fillon, est-ce que vous appuyez cette création de centres? C'est une des réponses à apporter en France que ces centres de déradicalisation pour empêcher les départs et éventuellement accompagner les retours?
Tel que vous les décrivez, cela produit un sourire sceptique sur tous les visages autour de cette table.
C'est pas bien de nous dénoncer.
Mais oui, pourquoi?
Non,
c'est de l'angélisme
que...
de la part. Et en même
oui,
temps, qu'est-ce qu'on fait?
Je pense que c'est de l'angélisme, oui. Enfin, ou en tout cas, ça fonctionne sans doute pour des apprentis djihadistes de 6 ans. Mais pas pour ceux.
C'est pas ceux qui sont concernés, effectivement. Dans
le
ces
Premier
centres.
Ministre disait ce matin qu'il y a 11 000. Personnes fichées pour leur lien avec l'intégrisme musulman. Donc ce sont des adultes avec lesquels il va falloir utiliser des méthodes sans doute un peu plus contraignantes.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? On les met en prison, dont on sait effectivement que ce sont des lieux de radicalisation.
Non, il y a un certain nombre de propositions sur la table. D'abord, la première proposition, c'est que ceux qui ne sont pas de nationalité française, on les renvoie chez eux. La deuxième proposition, c'est que ceux qui sont de nationalité française, si on doit pouvoir mesurer leur dangerosité, ceux qui sont les plus dangereux, je crois que le gouvernement lui-même a accepté l'idée de les placer en résidence surveillée. Ceux qui sont au début de ce processus de radicalisation peuvent sans doute faire l'objet d'un traitement particulier comme celui que vous évoquiez.
Pour ces jeunes qui partent en Syrie, en tout cas Hélène, c'est souvent un voyage sans retour.
Information du journal britannique The Telegraph qui raconte comment une jeune Autrichienne de 17 ans, partie l'an dernier en Syrie, convaincue d'aller servir Allah, aurait été tuée par le groupe État islamique parce qu'elle voulait rentrer. L'organisation terroriste s'était servie d'elle pour sa propagande, on la voyait entièrement voilée, brandissant une kalachnikov. Mais Sabra, quelques mois plus tard, écrit à sa famille pour lui dire qu'elle n'en peut plus de l'extrême violence dans laquelle elle vit. Elle veut revenir à la maison. Plus de nouvelles depuis, elle disparaît. Et c'est une jeune Tunisienne qui était également partie comme volontaire, mais qui s'est échappée depuis de Syrie, qui l'affirme aujourd'hui. Sabra, 17 ans, a été assassinée par ceux qu'elle était partie rejoindre.
On termine, Hélène, par deux icônes.
Oui, la chute d'une icône d'abord. Titre ce matin à sa une, Le Havre Presse, avec la photo de Michel Platini, pleine page. Le rapport d'enquête de la FIFA préconisant une radiation à vie du français, du monde du foot, est vécu comme un véritable cataclysme. Aujourd'hui en France, Le Parisien rapporte que les proches de Platini naviguent entre stupéfaction et colère. Et parmi eux, Jacques Vendroux, notre Jacques Vendroux, patron des sports à Radio France, et proche du triple ballon d'or depuis 40 ans. Jacques Vendroux, furieux, c'est simplement dégueulasse, peste-t-il. J'ai appelé Platini, il m'a dit avec humour, t'as de la chance de me parler, normalement je devrais être sur le bûcher. Et puis, autre icône, oui, Jacques Chirac, qui fait lui la une du nouveau magazine Jésus, qui ne s'intéresse pas du tout à ce que vous croyez, mais qui entend raconter Jésus, la grande aventure de la nourriture. Jacques Chirac, un ogre à l'Élysée. Alors qu'on a des anecdotes en pagaille, Jean-Louis Debray par exemple, qui raconte ses déjeuners gargantuesques avec Chirac, qui commande encore aujourd'hui pour le même repas, boudin noir, andouillette, tête de veau, escargot, et un petit rhum pour terminer. Mais surtout, on comprend que la table, son amour de la table, a été pour Chirac un outil de communication. Oubliez le grand escogriffe ultra nerveux, le candidat du bruit et de l'odeur, le maire père du système RPR de la mairie de Paris. Avec son appétit de bon vivant, ses mots d'esprit rabelaisien, Chirac est devenu tendance, écrit le journal. Swag, disent même les jeunes aujourd'hui, qui arborent des t-shirts à l'effigie de Jacques Chirac. Bernard Guetta me regarde avec des yeux absolument... Oui, il y a des t-shirts à l'effigie de Jacques Chirac et les jeunes le portent.
Formidable.
Voilà, manger pour être swag, mais c'est un conseil pour vous, François Fillon, avant les primaires.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Hélène Jean.